From the conference center at Temple
Square. Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous assistez à la 181e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par un chœur mixte de l'Université Brigham Young d'Idaho. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
Président Dieter F. Uhrdorf,
deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Mes frères et sœurs et amis, nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la deuxième session générale de la 181e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui sont ici présentes ou qui suivent la conférence à la télévision, à la radio ou sur l'Internet, et les nombreuses autres personnes qui sont réunies dans les centres de pieux, dans diverses parties du monde, où la réunion est diffusée par satellite. La musique de cette session sera interprétée par un chœur mixte de l'Université Brigham Young Idaho, sous la direction d'Eda Ashby et Randall Kempton, avec Bonnie Goodliffe à l'orgue. Nous allons maintenant écouter le chœur chanter Quel fondement ferme. Kevin W. Pearson, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture.
Our beloved Father in heaven.
Notre Père céleste bien-aimé, nous tes enfants rassemblés ici et dans les foyers de par le monde, comme tu l'as commandé, afin de recevoir des directives de ta part par l'intermédiaire de ton prophète bien-aimé, ton serviteur choisi. Nous t'aimons, Père, et nous aimons ton Fils. Et notre foi et notre confiance en toi et en lui sont absolues. Alors que nous lèverons les mains pour soutenir les dirigeants de l'Église ce jour, Père céleste, aide-nous à le faire de tout notre cœur. Nous te remercions, ô Dieu, pour le prophète. Père aux cieux, aide-nous afin que nous participions avec plus d'intensité à hâter l'œuvre de ton Fils parmi les enfants des hommes. Aide-nous à avoir de l'amour, à nous soutenir les uns les autres, à tendre la main, à nous soucier les uns des autres comme notre Sauveur nous a enseigné à aimer. Et c'est avec humilité que nous te supplions de nous donner ton esprit pour cette session de conférence, afin que notre foi soit accrue et que notre compréhension soit approfondie et que nos désirs de te servir et de garder tes commandements soient renforcés. Nos cœurs sont humbles et nos esprits désireux d'apprendre, Père céleste. Peux-tu nous bénir afin que nos besoins personnels trouvent réponse par la puissance du Saint-Esprit qui nous montrera ce que nous devons faire. C'est pourquoi nous te prions au début de cette conférence, au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Le président Monson m'a demandé de vous présenter maintenant le nom des officiers généraux de l'Église et les 70 d'interrégions pour un vote de soutien. Après quoi, Robert Candwell, directeur général du département d'appurement de l'Église, lira le rapport de son département. Il sera suivi de Brooke B. Ailes, secrétaire de la première présidence, qui présentera le rapport statistique de l'Église pour l'année 2010. Frères et sœurs, il nous est proposé de soutenir Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant et révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Henry Bennion Ehring comme premier conseiller dans la première présidence et Dietrich Friedrich Urdorf comme deuxième conseiller dans la première présidence. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Boyd Kenneth Packer comme président du Collège des 12 apôtres et les membres suivants de ce collège. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Talish H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Ailes, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson et Neil L. Andersen. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Il nous est proposé de relever, à la date du 1er mai 2011, les 70 d'interrégions suivants. José L. Alonso, Nelson L. Altamirano,
John S. Anderson, Ian S. Arden, Zerio E. Avila, David R. Brown, D. Fraser Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro J. Campero, Daniel M. Canoles, Carl B. Cook, I. Polosky Corden, J. Devin Cornish, Federico F. Costales, Legrand R. Curtis Jr., Heber O. Diaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, Manuel Gonzalez, Daniel M. Jones, Donald J. Kais, Domingos S. Linhares, B. Renato Maldonado, Raimundo Morales, J. Michael Paya, Stephen D. Posey, Juan M. Rodriguez, Gerardo L. Rubio, J. L. Zitrud, Dirk Smybert, Ivan Sterry, Israel R. Tolentino, W. Christopher Waddell, Gary W. Walker.
Ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ces frères pour leur excellent service le manifestent. Il nous est proposé de soutenir comme nouveaux membres du premier collège des 70 Don R. Clark, José L. Alonso, Ian S. Ardern, Carl B. Cook, Le Grand R. Curtis Fils, W. Christopher Waddell et Katsuhiko Yamashita. Et comme nouveau membre du deuxième collège des 70, Randall K. Bennett, J. Devin Cornish, O. Vincent Alec et Larry Y. Wilson. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Que ceux qui sont opposés le manifestent par le même signe. Il nous est proposé de soutenir comme nouveau 70 d'interrégion.
Kent J. Allen, Stephen B. Allen, Windsor Baldarama, R. Randall Pluth, Hans T. Boom, Patrick M. Butoil, Marcelo F. Chappe, Eleazar S. Collado, Jeffrey D. Cummings, Nicolas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernande Ferreira, Ricardo P. Jimenez, Alan D. Haney, Douglas F. Hyam, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Matti T. Utenos, Jang Ho Kim, Alfred Kiungu, Remedio A. Mam Jr., Ismael Mendoza, Cesar R. Morales, Rulon D. Mans, Ramon C. Noblesa, Avenir V. Pajaro, Gary P. B. Porter, Jose L. Reina, Esteban G. Resek, George F. Rhodes Jr., Lynn L. Summerhays, Greg P. Terry, David J. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valladares, Fabian E. Vallejo, Emma Villalobos, Terry L. Wade. All in favor, please.
Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Y a-t-il des avis contraires? Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 d'interrégion et président général d'auxiliaire actuel. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Président Monson, pour ce que j'ai pu observer, le vote dans le centre de conférence a été unanime en faveur des propositions faites. Merci, mes frères et sœurs, de votre vote de soutien, de votre foi constante, de votre dévouement et de vos prières. Nous invitons les autorités générales qui viennent d'être appelées à prendre leur place sur l'estrade.
It's a long walk.
C'est une longue marche.
Brother Cantwell.
Frère Cantwell.
To the first presidency.
À la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, chers frères. Comme le prescrit la révélation de la section 120 des Doctrines et Alliances, c'est le Conseil d'affectation de la dîme qui autorise les dépenses faites à partir des fonds de l'Église. Ce Conseil est composé de la première présidence, du Collège des 12 apôtres et de l'Épiscopat président. Il approuve les budgets des départements, des établissements de l'Église et les montants alloués aux unités ecclésiastiques. Après avoir reçu l'autorisation du Conseil, les départements de l'Église doivent dépenser les fonds selon les budgets approuvés et conformément aux règles et aux modalités de l'Église. Accès a été donné au département d'appurement de l'Église à tous les registres et systèmes nécessaires pour évaluer l'adéquation des contrôles des recettes et des dépenses et la protection des biens. Le département d'appurement de l'Église est indépendant de tous les autres départements de l'Église et l'établissement de l'Église, et le personnel se compose d'experts comptables, de contrôleurs de gestion interne, de vérificateurs de systèmes informatiques et d'autres personnels certifiés. Suite à nos vérifications, le département d'appurement de l'Église estime que dans tous leurs aspects significatifs, les dons reçus, les dépenses faites et les ressources de l'Église au cours de l'exercice 2010 ont été enregistrées et administrées conformément aux pratiques comptables appropriées, au budget approuvé et règles et modalités de l'Église. Respectueusement, le département d'appurement de l'Église. Robert W. Cantwell.
La première présidence a publié le rapport statistique suivant sur la situation de l'Église au 31 décembre 2010. 2896 pieux, 340 missions, 614 districts et 28 660 paroisses et branches. Fin 2010, le nombre total des membres de l'Église était de 14 131 467. Il y a eu 120 528 nouveaux enfants inscrits dans l'Église et 272 814 convertis baptisés en 2010. À la fin de l'année, il y avait 52 225 missionnaires à plein temps. Il y avait 20 813 missionnaires des services de l'Église, dont la plupart vivant chez eux et appelés à soutenir des fonctions diverses de l'Église. 4 temples ont été consacrés l'année passée. Le temple de Vancouver au Canada, le temple de Gila Valley en Arizona, le temple de Cebu City aux Philippines et le temple de Kiev en Ukraine. Le temple de Lehi à Hawaï a été reconsacré en 2010. Le nombre total de temples en service dans le monde est de 134. Anciens officiers généraux et hauts membres éminents de l'Église décédés depuis avril dernier. W. Grant Bangarter, Adney Komatsu, Hans Behringer, le grand Hercutis, Richard P. Lindsay, Donald L. Stiley, Richard B. Whitlin, ancien membre des collèges des 70, Barbara B. Smith, ancienne présidente générale de Société de secours, Ruth H. Funk, ancienne présidente générale des jeunes filles, Hélène Fiennes, veuve de Thomas Fiennes, autorité générale émérite, Arnold D. Freeberg, artiste et illustrateur, et G. Elliott Cameron, ancien commissaire à l'éducation de l'Église. Merci, frères, et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 70 appelés. Le chœur va maintenant interpréter « Oh, quel amour !» Après ce chant, Boyd K. Packer, président du Collège des Nouveaux Apôtres, sera notre premier orateur. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Russell M. Nelson du Collège des 12 Apôtres.
Thank you. It has been 400 years.
Cela fait 400 ans que la version du roi Jacques de la Bible a été publiée avec la contribution importante de William Tyndale, un grand héros à mes yeux. Les membres du clergé ne voulaient pas que la Bible soit publiée en anglais courant. Ils pourchassèrent Tyndale de lieu en lieu. Celui-ci leur dit, « Si Dieu me prête vie, avant qu'il ne se passe beaucoup d'années, je ferai en sorte qu'un garçon qui pousse la charrue en sache plus sur l'Écriture que vous. » Tyndale fut trahi et enfermé pendant plus d'un an dans une prison sombre et glaciale de Bruxelles. Ses vêtements étaient en lambeaux. Il supplia ses geôliers de lui donner son manteau, son chapeau et une bougie, disant, « Il est en vérité épuisant de rester seul dans le noir. » Cela lui fut refusé. On finit par le sortir de prison, et devant la foule, il fut étranglé et brûlé sur un bûcher. Mais l'œuvre et le martyre de William Tyndale ne furent pas vains. Puisqu'on enseigne aux petits saints des derniers jours à connaître les saintes Écritures dès leur jeunesse, ils accomplissent dans une certaine mesure la prophétie faite il y a 400 ans par William Tyndale. Nos Écritures se composent aujourd'hui de la Bible, du Livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ, de la Perle de Grand Prix et des Doctrines et Alliances. Du fait du Livre de Mormon, nous sommes fréquemment appelés l'Église mormone, titre que nous ne refusons pas, mais qui n'est pas vraiment exact. Dans le Livre de Mormon, le Seigneur revisite les Néphites parce qu'ils ont prié le Père en son nom. Le Seigneur dit, « Que voulez-vous que je vous donne ?» Et lui dirent, « Seigneur, nous voulons que tu nous dises le nom par lequel nous appellerons cette Église, car il y a des controverses à ce sujet parmi le peuple. » Et le Seigneur leur dit, « Pourquoi le peuple murmure-t-il et se querelle-t-il à cause de cela ? N'a-t-il pas lu les Écritures qui disent que vous devez prendre sur vous le nom du Christ ? Car c'est de ce nom que vous serez appelés au dernier jour. C'est pourquoi tout ce que vous ferez, vous le ferez en mon nom. C'est pourquoi vous appellerez l'Église de mon nom et vous invoquerez le Père en mon nom pour qu'il bénisse l'Église à cause de moi. Et comment est-elle mon Église si elle n'est pas appelée de mon nom ? Car si une église est appelée du nom de Moïse, alors c'est l'église de Moïse. Ou s'il est appelé du nom d'un homme, alors c'est l'église d'un homme. Mais si elle est appelée de mon nom, alors c'est mon église, si elle est édifiée sur mon évangile. Obéissant à la révélation, nous nous donnons le nom d'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, plutôt que d'église mormone. Que les autres appellent l'Église mormone ou nous appellent les mormons, c'est une chose. Mais que nous le fassions, c'en est tout autre. La première présidence a déclaré, « Il est de plus en plus important d'utiliser le nom révélé, Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, pour proclamer le nom du Sauveur partout dans le monde. » Nous vous demandons donc, lorsque vous parlez de l'Église, d'utiliser son nom en entier chaque fois que possible. À propos des membres de l'Église, nous vous recommandons de dire « les membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ». Si l'on doit utiliser un nom plus court, il est préférable de dire « saints des derniers jours ». Nous, saints des derniers jours, nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ et nous écrivons selon nos prophéties afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Le monde nous appelle comme il veut, mais lorsque nous parlons, souvenons-nous toujours que nous appartenons à l'Église de Jésus-Christ. Certains déclarent que nous ne sommes pas chrétiens. Soit ils ne nous connaissent pas du tout, soit ils comprennent mal. Dans l'Église, toutes les ordonnances sont faites par l'autorité de Jésus-Christ et en son nom. Nous avons la même organisation que l'Église primitive, avec des apôtres et des prophètes. Anciennement, Le Seigneur a ordonné 12 apôtres. Il a été trahi et crucifié. Après sa résurrection, le Sauveur a instruit ses disciples pendant 40 jours, puis il est monté au ciel. Mais il manquait quelque chose. Quelques jours plus tard, les 12 se sont rassemblés dans une maison et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ces apôtres avaient maintenant reçu le pouvoir. Ils comprenaient que l'autorité donnée par le Sauveur et le don du Saint-Esprit étaient essentielles pour établir l'Église. Il leur fut commandé de baptiser et de conférer le don du Saint-Esprit. Avec le temps, les apôtres et la prêtrise qu'ils détenaient disparurent. Il fallait que l'autorité et le pouvoir d'administrer les ordonnances soient rétablis. Pendant des siècles, les hommes ont attendu le retour de l'autorité et l'établissement de l'Église du Seigneur. En 1829, la prêtrise a été rétablie et conférée à Joseph Smith et Oliver Cowdery par Jean-Baptiste et par les apôtres Pierre, Jacques et Jean. Maintenant, les frères dignes de l'Église sont ordonnés à la prêtrise. Cette autorité est le don du Saint-Esprit qui en découle et qui est conféré à tous les membres de l'Église après le baptême, nous met à part des autres Églises. Une des premières révélations demande que chacun parle au nom de Dieu, le Seigneur, le Sauveur du monde. L'œuvre de l'Église aujourd'hui est accomplie par des hommes et des femmes ordinaires, appelés et soutenus pour présider, enseigner et diriger. C'est par le pouvoir de la révélation et le don du Saint-Esprit que les hommes, que les personnes appelées sont guidées pour connaître la volonté de Dieu. Les autres peuvent ne pas accepter des choses telles que la prophétie, la révélation et le don du Saint-Esprit. Mais pour nous comprendre, ils doivent comprendre que nous acceptons cela. Le Seigneur a révélé à Joseph Smith un code de santé, la parole de sagesse, longtemps avant que les dangers soient connus dans le monde. Il est enseigné à tous de ne pas consommer de thé, de café, d'alcool, de tabac, ni bien sûr aucune drogue ou substance provoquant l'accoutumance, choses qui sont toujours devant nos jeunes. Il est promis à ceux qui obéissent à cette révélation qu'ils recevront la santé dans le nombril et qu'ils trouveront de la sagesse et de grands trésors de connaissances, oui, des trésors cachés. Dans une autre révélation, le principe de moralité du Seigneur commande que les pouvoirs sacrés de procréation soient protégés et utilisés uniquement entre un homme et une femme, mari et femme. Seule l'effusion du sang innocent et le reniement du Saint-Esprit dépassent en gravité le mauvais usage de ce pouvoir. Si quelqu'un transgresse la loi, le principe du repentir enseigne comment effacer les effets de cette transgression. Tout le monde est mis à l'épreuve. On pourrait penser qu'il n'est pas juste d'être pris pour cible et d'être soumis à une tentation particulière. Mais c'est cela l'objectif de la condition mortelle, être mis à l'épreuve. Et la réponse est la même pour tout le monde. Nous devons et nous pouvons résister aux tentations, quelles qu'elles soient. Le grand plan du bonheur est centré sur la vie de famille. Le mari est le chef du foyer et la femme l'âme du foyer, les deux étant partenaires égaux dans le mariage. Un saint des derniers jours est un chef de famille responsable et fidèle dans l'Évangile. C'est un mari et un père attentionné et dévoué. Il révère la condition féminine. La femme soutient son mari. Les deux parents veillent à la croissance spirituelle de leurs enfants. On enseigne aux saints des derniers jours de s'aimer et de pardonner franchement les offenses. Ma vie a été changée par un patriarche qui était un saint. Il avait épousé sa bien-aimée. Il s'aimait profondément. Elle avait bientôt été enceinte de leur premier enfant. Le soir où le bébé devait naître, il y eut des complications. Le seul médecin était quelque part dans la campagne à s'occuper des malades. Après de nombreuses heures de travail, l'état de la future mère devint désespéré. Finalement, le médecin fut localisé. En urgence, il agit rapidement et bientôt le bébé naquit et la crise fut, semblait-il, résolue. Mais quelques jours plus tard, la jeune mère mourut de l'infection que le médecin avait soignée chez quelqu'un d'autre ce soir-là. Le monde du jeune homme s'écroula. Au fil des semaines, son chagrin le taraudait. Il ne pensait plus qu'à cela, et dans son amertume, il devint menaçant. Aujourd'hui, il est certain qu'on l'aurait poussé à intenter un procès pour faute professionnelle, comme si l'argent pouvait résoudre quelque chose. Un soir, on frappa à sa porte. Une petite fille dit simplement, « Papa veut que vous veniez, il veut vous parler. » Papa était le président de Pieu. Le conseil de ce dirigeant sage fut simplement, « John, laisse tomber. Rien de ce que tu fais ne la ramènera. Quoi que tu fasses, cela ne fera qu'aggraver la situation. John, laisse tomber. » C'était l'épreuve de mon ami. Comment pouvait-il laisser tomber? Un tort terrible avait été commis. Il fit l'effort de se reprendre et finit par décider d'obéir et de suivre le conseil de ce président de Pieu, plein de sagesse. Il allait laisser tomber. Il dit, « Ce n'est que devenu vieux que j'ai compris et j'ai finalement pu voir un pauvre médecin de campagne, surchargé, sous-payé, courant de patient en patient, avec peu de médicaments, pas d'hôpital, peu d'instruments, s'efforçant de sauver des vies et y réussissant la plupart du temps. Il était intervenu à un moment de crise où deux vies étaient dans la balance et il avait agi sans retard. « J'ai finalement compris, dit-il, j'aurais détruit ma vie et celle d'autres personnes. » Il avait de nombreuses fois remercié le Seigneur d'avoir eu un dirigeant de la prêtrise sage qui lui avait simplement conseillé, « John, laisse tomber. » Autour de nous, nous voyons des membres de l'Église qui s'offensent. Certains se sentent offensés par des incidents de l'histoire de l'Église ou par ses dirigeants et en souffrent toute leur vie, incapables de voir au-delà des erreurs des autres. Ils ne laissent pas tomber. Ils ne viennent plus à l'Église. Cette attitude ressemble à celle d'un homme qui est frappé par une massue. Offensé, il prend une massue et se tape sur la tête tous les jours de sa vie. Comme c'est insensé, comme c'est triste. Ce genre de vengeance ne fait de mal qu'à soi-même. Si vous avez été offensé, pardonnez, oubliez et laissez tomber. Le livre de Mormon contient l'avertissement suivant. Et maintenant, s'il y a des fautes, ce sont les erreurs des hommes. C'est pourquoi ne condamnez pas les choses de Dieu, afin d'être trouvés sans tâche devant le siège du jugement du Christ. Un saint des derniers jours est un individu tout à fait ordinaire. Nous sommes maintenant partout dans le monde. Nous sommes 14 millions. Ce n'est que le commencement. Il nous est enseigné d'être dans le monde, mais pas du monde. Nous menons donc une vie ordinaire dans une famille ordinaire au milieu de la population. Il nous est enseigné de ne pas mentir, ni voler, ni tricher. Nous ne jurons pas. Nous sommes positifs et heureux et nous n'avons pas peur de la vie. Nous sommes disposés à pleurer avec ceux qui pleurent et à consoler ceux qui ont besoin de consolation et être les témoins de Dieu en tout temps et en toutes choses et dans tous les lieux. Si quelqu'un cherche une église qui demande très peu, ce n'est pas celle-ci. Il n'est pas facile d'être saint des derniers jours, mais en fin de compte, c'est la seule vraie voie. Quelle que soit l'opposition ou les guerres, les bruits de guerre et tremblements de terre en divers lieux, aucun pouvoir ni influence ne peut arrêter cette œuvre. Aucun pouvoir. Chacun de nous peut être guidé par l'esprit de révélation et le don du Saint-Esprit. L'homme pourrait tout aussi bien étendre son bras chétif pour arrêter le Missouri dans son cours fixé ou le faire remonter à sa source, qu'empêcher le Tout-Puissant de déverser la connaissance du haut des cieux sur la tête des saints des derniers jours. Si vous portez un fardeau, oubliez-le. Laissez tomber. Pardonnez beaucoup, repentez-vous, et vous serez visité d'en haut par le pouvoir du Saint-Esprit. Et on veillera sur vous, vous serez béni. C'est une invitation à venir à lui, dans son Église, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, la seule Église vraie vivante sur toute la terre. C'est là que nous trouvons le grand plan du bonheur. J'en rends témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.
My beloved brethren and sisters, thank you for your sustained...
Mes très chers frères et sœurs, nous vous remercions de votre soutien, pas seulement de vos mains levées, mais aussi du soutien que vous apportez par votre service chez vous, à l'Église et dans vos collectivités. Nous aimons être avec vous et vous voir dans vos familles et parmi vos amis, où que vous viviez. Nous observons vos efforts pour rendre ce monde meilleur. Nous vous soutenons, nous vous aimons. De même que vous priez pour nous, nous prions pour vous. Nous imaginons vos familles rassemblées autour d'un téléviseur ou d'un ordinateur pour suivre le déroulement de la conférence générale chez vous. Une mère et un père attentifs m'ont envoyé un exemplaire d'une photo qu'ils ont prise au moment d'une conférence. Ils ont remarqué que leur fils de 18 mois a reconnu les traits et la voix de l'orateur. Il s'est mis à envoyer des baisers vers le téléviseur. Il voulait s'approcher. Alors sa grande sœur prévenante s'est empressée de le mettre sur ses épaules et l'a approché. Voici cette photo. Oui, sur le téléviseur, c'est moi. Et ces enfants sont nos petits-enfants. Dans quelques années, ce garçon sera ancien, doté dans le temple et prêt pour sa mission. Plus tard, il sera scellé à la compagne éternelle de son choix. Pouvez-vous l'imaginer un jour, mari et père, avec des enfants à lui? Et un jour, il dira adieu à ses grands-pères, avec la connaissance sûre que la mort fait partie de la vie. C'est vrai. Nous vivons pour mourir et nous mourrons pour vivre de nouveau. D'un point de vue éternel, la seule mort véritablement prématurée est celle d'une personne qui n'est pas prête à rencontrer Dieu. Nous, les apôtres et les prophètes, nous nous soucions non seulement de nos enfants et petits-enfants, mais aussi de vous aussi et de chacun des enfants de Dieu. Tout ce que l'avenir a en réserve pour chaque enfant sacré de Dieu sera façonné par ses parents, sa famille, ses amis et ses instructeurs. Donc, la foi que nous avons maintenant fera partie de la foi de notre postérité plus tard. Chaque individu fera son propre chemin dans un monde en constant changement, un monde d'idéologies qui se font concurrence. Les forces du mal s'opposeront toujours aux forces du bien. Satan s'efforce constamment de nous inciter à suivre ses voies et de nous rendre malheureux comme lui. et les risques normaux de la vie, comme la maladie, les blessures et les accidents, seront toujours présents. Nous vivons à une époque de bouleversement. Les tremblements de terre et les raz-de-marée apportent la destruction. Des gouvernements s'écroulent. Les tensions économiques sont graves. La famille est attaquée et le taux des divorces augmente. Nous avons de bonnes raisons de nous faire du souci, mais nous ne devons pas laisser nos craintes bousculer notre foi. Nous pouvons combattre ces craintes en fortifiant notre foi. Commencez par vos enfants. Vous, parents, vous avez la grande responsabilité de fortifier leur foi. Faites-leur ressentir votre foi, même quand vous avez des épreuves douloureuses. Centrez votre foi sur notre Père céleste aimant et sur son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Enseignez cette foi avec une conviction profonde. Enseignez à chaque garçon ou fille précieux qu'il est un enfant de Dieu, créé à son image, avec un objectif et un potentiel sacré. Chacun est né avec des difficultés à vaincre et de la foi à développer. Enseignez la foi au plan de Dieu pour le salut. Enseignez que le séjour dans la condition mortelle est une période de mise à l'épreuve pour voir si nous ferons tout ce que le Seigneur nous commande de faire. Enseignez la foi de respecter tous les commandements de Dieu, sachant qu'ils sont donnés pour le bien de ses enfants et pour leur apporter de la joie. Avertissez-les qu'ils rencontreront des gens qui choisiront les commandements qu'ils veulent respecter et ignoreront ceux qu'ils veulent enfreindre. J'appelle cela l'obéissance à la carte. Cette pratique sélective ne fonctionne pas. Elle mène au malheur. Pour se préparer à rencontrer Dieu, on doit respecter tous ses commandements. Il faut de la foi pour y obéir. Et le respect de ses commandements fortifie cette foi. L'obéissance permet aux bénédictions de Dieu de se déverser sans contrainte. Il bénit ses enfants obéissants en les libérant de la servitude et du malheur. Et il les bénit en leur apportant davantage de lumière. Par exemple, nous respectons la parole de sagesse, sachant que l'obéissance nous rendra non seulement libres de toute accoutumance, mais qu'elle nous apportera aussi en bénédiction de la sagesse et des trésors de connaissances. Enseignez la foi pour savoir que l'obéissance aux commandements de Dieu apporte une protection physique et spirituelle. Et n'oubliez pas que les saints anges de Dieu sont toujours prêts à nous aider à la demande. Le Seigneur l'a déclaré. J'irai devant votre face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur, et mes anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. Quelle promesse! Quand nous sommes fidèles, lui et ses anges nous aident. Une foi inébranlable est fortifiée par la prière. Vos supplications ferventes sont importantes pour lui. Pensez aux prières intenses et passionnées de Joseph Smith pendant les jours terribles de son incarcération à la prison de Liberty. Le Seigneur a répondu en changeant la vision que le prophète avait des choses. Il a dit, « Sache, mon fils, que toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. » Si nous prions avec une perspective éternelle, nous pouvons être sûrs que nos supplications et nos sanglots seront entendus. Cette promesse du Seigneur se trouve à la section 98 des Doctrines et Alliances. Vos prières sont parvenues aux oreilles du Seigneur et sont enregistrées avec ce sceau et ce testament. Le Seigneur a juré, décrété qu'elles seront exaucées. C'est pourquoi il vous fait cette promesse avec l'alliance immuable qu'elles seront exaucées. Et toutes les afflictions que vous avez subies concourront à votre bien et à la gloire de mon nom, dit le Seigneur. Fermeture de parenthèse. Le Seigneur a choisi ces mots les plus forts pour nous rassurer. Sceau, testament, juré, décrété, alliance immuable. Frères et sœurs, croyez-le. Dieu répondra à vos prières sincères et ferventes et votre foi sera fortifiée. Pour acquérir une foi durable, il est essentiel de prendre l'engagement durable de payer complètement la dîme. Au départ, il faut de la foi pour payer la dîme. Puis le payeur de dîme acquiert davantage de foi, jusqu'au point où payer la dîme devient une précieuse bénédiction. La dîme est une loi antique de Dieu. Il a promis à ses enfants qu'il ouvrirait les écluses des cieux et répandrait la bénédiction en abondance. Non seulement cela, mais grâce à la dîme, votre nom restera inscrit parmi le peuple de Dieu et sera une protection au jour de la vengeance et du feu. Pourquoi avons-nous besoin d'une foi si infaillible ? Parce que des jours difficiles nous attendent. Il sera à l'avenir rarement facile ou populaire d'être un saint des derniers jours fidèle. Nous serons tous mis à l'épreuve. L'apôtre Paul a prévenu que dans les derniers jours, ceux qui suivront diligemment le Seigneur seront persécutés. Cette persécution peut soit vous réduire à une faiblesse silencieuse, soit vous motiver à mener une vie quotidienne plus exemplaire et plus courageuse. La manière dont vous réagissez aux épreuves de la vie détermine le développement de votre foi. Vous êtes fortifié quand vous vous souvenez que vous avez une nature divine, un patrimoine de valeur infinie. Le Seigneur vous a rappelé, et à vos enfants et petits-enfants aussi, que vous êtes héritiers légitimes, que vous avez été gardés dans les cieux pour naître au moment et au lieu particulier où vous êtes nés, pour progresser et devenir ses porte-étendards et le peuple de son alliance. En suivant le chemin de la justice du Seigneur, vous aurez la bénédiction de bénéficier de sa bonté et d'être une lumière et des sauveurs pour son peuple. Chacun de vous, frères et sœurs, peut obtenir des bénédictions par le pouvoir de la sainte prêtrise de Melchisédek. Ces bénédictions peuvent changer votre situation en matière de santé, de compagnie du Saint-Esprit, de relations personnelles et de possibilités d'avenir. Le pouvoir et l'autorité de cette prêtrise est de détenir les clés de toutes les bénédictions spirituelles de l'Église. Et chose tout à fait remarquable, le Seigneur a déclaré qu'il confirmerait ses bénédictions selon sa volonté. Les plus grandes de toutes les bénédictions de la prêtrise sont accordées dans les saints temples du Seigneur. Si vous êtes fidèles aux alliances que vous y faites, votre famille et vous recevrez les bénédictions de la vie éternelle. Vous ne recevrez pas vos récompenses que dans l'au-delà. Vous recevrez beaucoup de bénédictions dans cette vie, avec vos enfants et vos petits-enfants. Vous n'avez pas, saint fidèle, à mener seul les combats de la vie. Pensez-y. Le Seigneur a déclaré, « Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. » Plus tard, il a promis à son peuple fidèle, « Moi, le Seigneur, je combattrai pour eux, pour leurs enfants et pour les enfants de leurs enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Notre président bien-aimé, Thomas S. Monson, nous a donné son témoignage de prophète. Il a dit, « Je vous témoigne que les bénédictions qui nous sont promises sont au-delà de toute mesure, même si les nuages annonciateurs d'orage se rassemblent, même si la pluie se déverse sur nous. Notre connaissance de l'Évangile et notre amour de notre Père Céleste et de notre Sauveur nous consoleront, nous soutiendront et nous apporteront la joie au cœur si nous sommes fidèles et si nous respectons les commandements. Le président Monson a continué. Mes chers frères et sœurs, ne craignez pas. Rassurez-vous, l'avenir est aussi brillant que votre foi. Fin de citation. À la déclaration puissante du président Monson, j'ajoute la mienne. Je témoigne que Dieu est notre Père. Jésus est le Christ. Son Église a été rétablie sur la terre. Sa vérité, ses alliances et ses ordonnances nous permettent de vaincre la peur et d'aborder l'avenir avec foi. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
The choir and the congregation will
le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter « Saints en avant, armés de foi en Christ ». Après ce cantique, Richard G. Maines, des 70, vous adressera la parole. Il sera suivi de Cécile O. Samuelson, des 70. Puis nous écouterons Dallin H. Hawkes, du Collège des 12 apôtres.
This is the 181st.
Vous assistez à la 181e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Early on in my service as a young missionary in Uruguay and Paraguay,
jeune missionnaire au début de ma mission en Uruguay et au Paraguay, je me suis rendu compte que l'une des choses qui attirait le plus les gens qui voulaient en savoir davantage au sujet de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours était leur intérêt pour notre doctrine concernant la famille. En fait, depuis le rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ, les gens qui cherchent la vérité sont attirés par la doctrine, selon laquelle la famille peut être ensemble à jamais. Le principe de la famille éternelle est un élément essentiel du grand plan de notre Père Céleste pour ses enfants. La compréhension que nous sommes une famille céleste, aussi bien qu'une famille terrestre, est essentielle à ce plan. L'apôtre Paul nous enseigne que notre Père Céleste est le Père de notre esprit, qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il le trouve, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. De lui, nous sommes la race. Être les enfants d'un Père Céleste aimant est un principe si fondamental de l'Évangile de Jésus-Christ que même nos enfants proclame sa véracité quand il chante le chant de la primaire « Je suis enfant de Dieu ». Vous souvenez-vous de ces paroles ?« Je suis enfant de Dieu et il m'a mis ici. Il m'a donné un bon foyer, des parents si gentils. Conduis-moi et marche avec moi sur le bon chemin. Apprends-moi comment agir pour le connaître enfin. » Reconnaître que nous avons une famille céleste nous aide à comprendre la nature éternelle de notre famille terrestre. Les doctrines et alliances nous enseignent que la famille est essentielle à l'organisation des cieux. Et cette même sociabilité qui existe parmi nous ici existera parmi nous là-bas, seulement elle sera accompagnée de gloire éternelle. Il est essentiel de comprendre la nature éternelle de la famille, si l'on veut comprendre le plan de notre Père Céleste pour ses enfants. D'autre part, l'adversaire veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour détruire ce plan. Dans sa tentative de faire échouer le plan de Dieu, il mène une attaque sans précédent sur l'institution de la famille. Certaines des armes les plus puissantes qu'il utilise sont l'égoïsme, la cupidité et la pornographie. Notre bonheur éternel ne fait pas partie des objectifs de Satan. Il sait qu'une clé essentielle pour rendre les hommes et les femmes malheureux comme lui est de les priver de relations familiales qui ont un potentiel éternel. Parce qu'il comprend que le vrai bonheur dans cette vie et dans les éternités se trouve au sein de la famille, Satan fait tout ce qu'il peut pour la détruire. Alma, le prophète de jadis, appelle le plan de Dieu pour ses enfants le grand plan du bonheur. La première présidence et le collège des 12 apôtres, que nous soutenons comme prophètes, voyants et révélateurs, nous ont donné ce conseil inspiré concernant le bonheur et la vie de famille. La famille est ordonnée de Dieu. Le mariage entre l'homme et la femme est essentiel à son plan éternel. Les enfants ont le droit de naître dans les liens du mariage et d'être élevés par un père et une mère qui honorent leurs vœux de mariage dans la fidélité totale. On a le plus de chances d'atteindre le bonheur en famille lorsque celle-ci est fondée sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Ce bonheur dont parle Alma et plus récemment la première présidence et le collège des 12 apôtres, c'est au foyer, au sein d'une famille, qu'on est le plus sûr de le trouver. Nous le trouverons en abondance si nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour fonder un foyer centré sur le Christ. Sœur Mainz et moi avons appris des principes importants quand nous avons commencé, au début de notre mariage, à fonder un foyer centré sur le Christ. Nous avons commencé par suivre le conseil de nos dirigeants de l'Église. Nous avons réuni nos enfants et nous avons fait des soirées familiales hebdomadaires. Et nous avons prié et étudié quotidiennement les Écritures. Cela n'a pas toujours été facile, ni commode, ni réussi, mais avec le temps, ces activités simples sont devenues des traditions familiales que nous chérissons. Nous avons appris que, plus tard dans la semaine, nos enfants pouvaient très bien ne pas se rappeler tout ce que nous avions enseigné lors de la soirée familiale, mais qu'ils se rappelleraient que nous l'avions faite. Nous avons appris qu'au cours de la journée à l'école, ils ne se rappelleraient probablement pas les mots exacts des Écritures ou la prière, mais qu'ils se souviendraient que nous les avions lus et que nous avions prié. Frères et sœurs, instaurer des traditions sacrées dans notre foyer nous procure un grand pouvoir et une grande protection à nous et à nos enfants. Quand on apprend, que l'on enseigne et que l'on met en pratique les principes de l'Évangile de Jésus-Christ dans notre foyer, cela contribue à créer une culture dans laquelle l'esprit peut demeurer. En instaurant ces traditions célestes dans notre foyer, nous pourrons surmonter les traditions fausses du monde et apprendre à faire passer en premier les besoins et les soucis des autres. La responsabilité de fonder un foyer centré sur le Christ repose à la fois sur les parents et sur les enfants. Les parents ont le devoir d'élever leurs enfants dans l'amour et la justice. Ils seront tenus pour responsables devant le Seigneur de la façon dont ils s'acquittent de leurs responsabilités sacrées. Les parents instruisent leurs enfants avec des mots et par leur exemple. Ce poème de C.C. Miller intitulé « L'écho » illustre l'importance et l'impact des parents quand ils influencent leurs enfants. C'est une brebis et non pas un agneau qui s'est égaré dans la parabole de Jésus. Une brebis adulte qui s'est écartée des 99 autres du troupeau. Et pourquoi chercherions-nous la brebis? Espérerions et prierions-nous sincèrement? Parce que lorsque les brebis s'égarent, elles risquent d'entraîner les agneaux. Vous savez, les agneaux suivent les brebis chaque fois qu'elles s'égarent. Peu après que s'éloignent les brebis, les agneaux s'égarent, eux aussi. Et nous supplions sincèrement les brebis en faveur des agneaux aujourd'hui, car quel prix terrible les agneaux devront payer lorsque les brebis se seront égarées. Dans les doctrines et alliances, le Seigneur nous explique les conséquences qui attendent les parents qui égarent leurs enfants. Et de plus, s'il y a des parents qui ont des enfants en Sion, qui ne leur enseignent pas à comprendre la doctrine du repentir, de la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, du baptême et du don du Saint-Esprit par l'imposition des mains, le péché sera sur la tête des parents. On ne saurait trop insister sur l'importance des paroles et de l'exemple des parents dans l'enseignement des traditions célestes à leurs enfants. Les enfants jouent aussi un rôle important dans l'établissement d'un foyer centré sur le Christ. Je vais vous lire un court discours que Will, mon petit-fils de 8 ans, a récemment fait, qui illustre ce principe. J'aime monter à cheval avec mon père pour prendre des animaux au lasso. Une corde est constituée de différents brins entrelacés qui lui donnent sa force. Si une corde n'avait qu'un seul brin, elle ne nous permettrait pas de faire notre travail. Mais parce que plusieurs brins agissent ensemble, nous pouvons l'utiliser de plusieurs façons différentes et elle est solide. La famille peut être comme une corde. Quand il n'y a qu'une seule personne qui travaille dur et fait ce qui est juste, la famille ne sera pas aussi forte que lorsque tout le monde fait des efforts pour s'entraider. Je sais que lorsque je fais ce qui est juste, j'aide ma famille. Quand je suis gentil avec ma sœur Isabelle, nous nous amusons tous les deux et papa et maman sont heureux. Si maman a besoin de faire quelque chose, je peux l'aider en jouant avec Joey, mon petit frère. Je peux aussi aider ma famille en gardant ma chambre en ordre et en aidant chaque fois que je le peux avec une bonne attitude. Comme je suis l'aîné de ma famille, je sais qu'il est important que je montre le bon exemple. Je peux faire de mon mieux pour choisir le bien et suivre les commandements. Je sais que les enfants peuvent aider leur famille à être forte comme une corde solide. Quand tout le monde fait de son mieux et travaille ensemble, la famille peut être heureuse et forte. Quand les parents président la famille dans l'amour et la justice et enseignent l'évangile de Jésus-Christ à leurs enfants par la parole et par l'exemple, et quand les enfants aiment et soutiennent leurs parents en apprenant et en mettant en pratique les principes qu'ils leur enseignent, cela permet la création d'un foyer centré sur le Christ. Frères et sœurs, nous, membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous comprenons la nature éternelle de la famille et nous y croyons. cette compréhension et cette conviction doivent nous inspirer à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour fonder un foyer centré sur le Christ. Je témoigne que si nous nous efforçons de le faire, nous mettrons plus pleinement en pratique l'amour et le service que la vie et l'expiation de Jésus-Christ, notre Sauveur, ont illustré. Et ainsi, notre foyer peut vraiment être un coin de ciel sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
L'une
des grandes bénédictions que j'ai eues au fil de nombreuses années a été l'occasion d'être entouré par les jeunes de l'Église et de travailler avec eux. Je considère ces fréquentations et ces amitiés comme les plus belles et les plus précieuses de ma vie. Elles sont aussi la base d'une grande partie de l'optimisme que j'ai quant à l'avenir de l'Église, de la société et du monde. Durant mes contacts avec ces jeunes, j'ai également eu l'occasion de converser avec certains qui avaient différents doutes ou difficultés concernant leur témoignage. Bien que leurs problèmes fussent différents, beaucoup de leurs questions et de leurs causes de confusion étaient fort semblables. Il ne s'agit pas de problèmes ou de préoccupations se limitant à un groupe démographique ou à un groupe d'âge. Ils peuvent perturber des membres de l'Église depuis plusieurs générations, des membres de l'Église relativement nouveaux et des personnes qui viennent juste de s'intéresser à l'Église. Leurs questions sont en général le fruit d'une recherche honnête ou de la curiosité. Du fait de la gravité et des conséquences pour chacun de nous, il n'est pas inutile d'examiner la question de notre témoignage. Dans notre parler de Saint des derniers jours, nous disons que nous avons le témoignage sûr de la véracité de l'Évangile qui s'obtient par la révélation, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Aussi simple que cette définition puisse paraître, elle peut donner lieu à plusieurs questions comme « Qui a le droit de recevoir un témoignage ?»« Comment reçoit-on la révélation nécessaire ?» Quelles sont les étapes à suivre pour obtenir un témoignage? Est-ce que l'obtention d'un témoignage est un événement unique ou est-ce un processus continu? Chacune de ces questions, ainsi que d'autres, ont leurs sous-questions, mais les principes à suivre pour obtenir et garder le témoignage de l'Évangile sont simples et à la portée de chacun. Je vais répondre à ces incertitudes possibles, puis je vais présenter quelques idées avancées récemment par des jeunes adultes de confiance qui ont vécu l'expérience d'obtenir un témoignage. Ils ont également eu la possibilité d'aider d'autres jeunes qui avaient des difficultés face à certains aspects de leur croyance. Premièrement, qui a le droit de recevoir un témoignage? Quiconque est disposé à faire ce qu'il faut pour cela, c'est-à-dire à respecter les commandements, peut avoir un témoignage. C'est pourquoi la voix du Seigneur s'adresse aux extrémités de la terre, afin que tous ceux qui veulent entendre, entendent. La raison fondamentale du rétablissement de l'Évangile est que chacun parle au nom de Dieu, le Sauveur du monde, afin que la foi grandisse sur la terre. Deuxièmement, comment reçoit-on la révélation nécessaire et quelles sont les étapes pour la recevoir? La marche à suivre a été la même au fil des siècles. La promesse donnée pour obtenir le témoignage du Livre de Mormon est aussi d'application générale. Et lorsque vous recevrez ces choses, ce qui signifie que vous avez écouté, lu, étudié et médité sur la question qui vous préoccupe, demandez à Dieu, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies. Ce qui signifie que vous prierez de manière réfléchie, spécifique et avec l'engagement de donner suite à la réponse à votre prière. Et si vous demandez d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. Troisièmement, est-ce que l'obtention d'un témoignage est un événement isolé ou est-ce un processus continu? Un témoignage est semblable à un organisme vivant qui grandit et se développe quand il est traité correctement. Il a besoin de soins et de protection constants pour bien se développer. De même, le fait de négliger le mode de vie que le témoignage éclaire ou de s'en écarter peut amener à sa perte ou à sa diminution. Les Écritures nous avertissent que la transgression des commandements de Dieu peut avoir pour conséquence la perte de l'esprit et même le reniement du témoignage que l'on a reçu. Je vais maintenant présenter 10 des réflexions et des suggestions de mes jeunes amis. les idées qu'ils avancent sont, dans leur conception et leur expérience, d'une nature assez courante. Elles ne vous sembleront donc pas étonnantes. Malheureusement, et en particulier dans les moments de difficulté, nous risquons temporairement d'oublier ou de minimiser le fait qu'elles s'appliquent à nous. Premièrement, tout le monde a de la valeur parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Il nous connaît, il nous aime et veut que nous réussissions et que nous retournions à sa présence. Nous devons apprendre à faire confiance à son amour et à son calendrier plutôt qu'à nos propres désirs impatients et imparfaits. Deuxièmement, bien que nous croyons au grand changement de cœur décrit dans les Écritures, il se produit souvent de manière progressive, plutôt qu'instantanément ou complètement, et en réponse à des questions et des problèmes précis, ainsi que par notre étude et nos prières. Troisièmement, nous devons nous souvenir que le but de la vie est d'être mis à l'épreuve et de nous dépasser afin que nous puissions apprendre à grandir par nos épreuves et que nous soyons reconnaissants pour les leçons que nous avons apprises et que nous n'aurions pas pu apprendre d'une manière plus facile. Quatrièmement, nous devons apprendre à nous fier à ce que nous croyons ou savons pour nous soutenir dans les moments d'incertitude ou dans les difficultés. Cinquièmement, comme Alma l'a enseigné, l'obtention d'un témoignage constitue une progression dans le cheminement qui conduit de l'espérance à la croyance et finalement à la connaissance de la véracité d'un principe, d'un point de doctrine déterminé ou de l'évangile lui-même. Sixièmement, enseigner à quelqu'un ce que nous savons renforce notre témoignage. Lorsque l'on donne de l'argent ou de la nourriture à quelqu'un, on en a moins. Par contre, quand on rend son témoignage, il se renforce et il augmente, autant pour celui qui le rend que pour celui qui l'entend. Septièmement, nous devons faire quotidiennement les petites choses nécessaires. Les prières, l'étude des Écritures et de l'Évangile, l'assistance aux réunions de l'Église, le culte au temple, nos visites d'enseignement, nos visites au foyer et les autres tâches qui renforcent notre foi et favorisent la présence de l'Esprit dans notre vie. Quand nous négligeons l'un de ces éléments, nous faisons courir un danger à notre témoignage. Huitièmement, nous ne devons pas exiger des autres ce que nous n'exigeons pas de nous-mêmes. Trop souvent, nous laissons les erreurs ou les échecs des autres, des dirigeants ou des membres de l'Église, influencer notre vision de nous-mêmes ou notre témoignage. Les difficultés des autres ne sont pas une excuse pour nos déficiences personnelles. Neuvièmement, se montrer trop dur envers soi-même quand l'on commet une erreur peut être aussi négatif qu'être désinvolte lorsqu'un vrai repentir est nécessaire. Dixièmement, nous devons toujours être certains que l'expiation du Christ est complètement opérationnelle pour chacun de nous quand nous l'y autorisons. Alors, tout le reste se met en place, même quand certains détails, habitudes ou pièces qui semblent manquer dans la mosaïque de notre foi continuent de nous poser un problème. Je suis reconnaissant des idées, des points forts et des témoignages de tant de mes jeunes amis exemplaires. Quand je suis avec eux, je suis fortifié, et quand je sais qu'ils sont avec d'autres jeunes adultes, cela me fortifie de savoir qu'ils font du bien au nom du Maître, qu'ils adorent et à qui ils s'efforcent d'obéir. Les gens font des choses bonnes parce qu'ils ont un témoignage. Bien que cela soit vrai, nous obtenons également un témoignage grâce à ce que nous faisons. Jésus a dit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé ». Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comme les filles et Mormons l'ont dit autrefois, je ne connais pas la signification de tout, mais je vais vous dire ce que je sais. Dieu, notre Père Céleste, vit et il nous aime. Son Fils unique, Jésus-Christ, est notre Sauveur et Rédempteur, et il est à la tête de l'Église qui porte son nom. Je sais que Joseph Smith a vécu tout ce qu'il a enseigné concernant le rétablissement de l'Évangile à notre époque. Je sais que nous sommes dirigés par des apôtres et des prophètes et que Thomas S. Monson détient toutes les clés de la prêtrise nécessaires pour notre profit et pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Nous avons tous droit à cette connaissance et si vous avez des difficultés, vous pouvez vous fier à la véracité des témoignages que vous entendez de cette chaire à cette conférence. Je sais cela et j'en rends témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.
I've chosen to talk about the importance of desire.
J'ai choisi de parler de l'importance du désir. J'espère que chacun de nous sondera son cœur pour déterminer ce qu'il désire vraiment et la place qu'il attribue à ses désirs les plus importants. Les désirs dictent nos priorités. Les priorités façonnent nos choix et les choix déterminent nos actes. Les désirs que nous traduisons en actes déterminent nos changements, nos réalisations et notre devenir. Premièrement, je vais parler de certains désirs courants. En tant que mortels, nous avons des besoins physiques fondamentaux qui nous imposent nos choix et déterminent nos actes. Trois exemples vont démontrer la façon dont parfois nous substituons à des désirs d'autres que nous considérons comme plus importants. Premièrement, la nourriture. Nous avons un besoin fondamental de nourriture, mais à un moment donné, le désir plus grand de jeûner peut lui être substitué. Deuxièmement, un abri. Lorsque j'avais 12 ans, j'ai résisté au désir d'avoir un abri à cause de mon désir plus grand de remplir une condition scout de passer une nuit dans les bois. Je faisais partie d'un groupe de garçons qui ont quitté des tentes confortables et ont trouvé le moyen de construire un abri et de faire un lit rudimentaire avec des matériaux naturels qu'ils ont trouvés. Troisièmement, le sommeil. Même ce désir fondamental peut être temporairement remplacé par un désir encore plus important. Quand j'étais jeune soldat dans la garde nationale d'Utah, un exemple en a été fourni par un officier qui avait l'expérience du combat. Dans les premiers mois de la guerre de Corée, une batterie d'artillerie de campagne de la garde nationale de Richfield en Utah fut appelée au service actif. Cette batterie, commandée par le capitaine Ray Cox, était composée d'une quarantaine de Mormons. Après une formation complémentaire et le renfort de réservistes venus d'ailleurs, ils furent envoyés en Corée, où ils connurent certains des combats les plus acharnés de cette guerre. Lors d'une de ces batailles, ils durent repousser un assaut direct de centaines de fantassins ennemis, le genre d'attaque qui avait débordé et détruit d'autres batteries d'artillerie de campagne. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'idée de surmonter le désir de dormir? Pendant une nuit décisive, lorsque l'infanterie ennemie avait percé le front et avait atteint l'arrière occupé par l'artillerie, le capitaine avait fait relier les téléphones de campagne à sa tente et ordonné à ses nombreux gardes au périmètre de lui téléphoner personnellement toutes les heures tout au long de la nuit. Cela avait maintenu les gardes éveillés, mais cela voulait aussi dire que le capitaine Cox avait eu son sommeil interrompu de très nombreuses fois. « Comment avez-vous pu tenir ?» lui ai-je demandé. Sa réponse montre le pouvoir d'un désir qui l'emporte sur tout le reste. Je savais que si je rentrais jamais chez moi, je rencontrerai les parents de ces garçons dans les rues de notre petite ville et je ne voulais pas me retrouver en face de l'un d'eux si son fils n'était pas rentré à cause de quelque chose que je n'aurais pas fait lorsque j'étais son chef. » Fin de citation. Quel exemple du pouvoir que peut exercer sur les priorités et les actes un désir qui l'emporte sur toute autre chose. Quel grand exemple pour nous tous qui sommes responsables du bien-être d'autres personnes, parents et dirigeants et instructeurs de l'Église. Pour conclure cette illustration, au petit matin qui suivit sa nuit pratiquement sans sommeil, le capitaine Cox mena ses hommes dans une contre-attaque sur l'infanterie ennemie. Ils firent plus de 800 prisonniers et n'eurent que deux blessés. Cox fut décoré pour sa bravoure et sa batterie, reçut une citation du président des États-Unis pour son héroïsme extraordinaire. Et, comme les vaillants guerriers d'Élamant, ils rentrèrent tous chez eux. Le livre de Mormon contient de nombreux enseignements sur l'importance du désir. Après de nombreuses heures à supplier le Seigneur, Enos entendit dire que ses péchés lui étaient pardonnés. Alors il commença à éprouver du désir pour le bien-être de ses frères. Il écrit, « Et lorsque j'eus prié, travaillant en toute diligence, le Seigneur me dit, je vais t'accorder selon ton désir, à cause de ta foi. Remarquez les trois choses essentielles qui ont précédé la bénédiction promise, le désir, le travail et la foi. Dans son sermon sur la foi, Alma enseigne que la foi peut commencer en ne pouvant faire plus que désirer croire, si nous laissons ce désir agir en nous. Un autre grand enseignement sur le désir, particulièrement sur ce qui devrait être notre désir suprême, se retrouve dans l'expérience du roi Lamanite, instruit par un missionnaire appelé Aaron. Lorsque les enseignements d'Aaron retinrent son attention, le roi demanda, « Que ferai-je pour avoir cette vie éternelle dont tu as parlé ?» Aaron répondit, « Si tu désires cela, si tu te repens de tous tes péchés et te prosternes devant Dieu et invoques son nom avec foi, croyant que tu recevras, alors tu recevras l'espérance que tu désires. » C'est ce que le roi fit, et il déclara au cours d'une prière fervente, « Je délaisserai tous mes péchés pour te connaître et pour être sauvé au dernier jour. » Avec cet engagement et cette formulation de son désir suprême, sa prière fut miraculeusement exaucée. Alma, le prophète, avait le grand désir de crier repentance à tout le monde. Mais il se rendit compte qu'il ne devait pas désirer le pouvoir irrésistible que cela exigeait, parce que, conclut-il, un Dieu juste accorde aux hommes selon leurs désirs, que ce soit pour la mort ou pour la vie. De même, dans la révélation moderne, le Seigneur a déclaré qu'il jugera tous les hommes selon leurs œuvres, selon le désir de leur cœur. Sommes-nous vraiment préparés à ce que notre juge éternel attache cette importance énorme à ce que nous désirons réellement? Beaucoup de passages d'Écriture mettent sur le même pied ce que nous désirons et ce que nous recherchons. Celui qui me cherche de bonne heure me trouvera et ne sera pas abandonné. Recherchez avec ferveur les meilleurs dons. Celui qui cherche diligemment trouve. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Cherchez-moi avec diligence. Et vous me trouverez. Demandez, et vous recevrez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Il n'est pas facile de réadapter nos désirs pour donner la plus haute priorité aux choses de l'éternité. Nous sommes tous tentés de désirer ce quatuor temporel, la propriété, la notoriété, l'orgueil et le pouvoir. Nous pouvons désirer ces choses, mais nous ne devons pas en faire nos plus hautes priorités. Ceux dont le désir le plus élevé est d'acquérir des biens tombent dans le piège du matérialisme. Ils négligent l'avertissement, ne recherchent pas la richesse, ni les choses vaines de ce monde. Ceux qui désirent la notoriété ou le pouvoir doivent suivre l'exemple du vaillant capitaine Moroni, dont le service n'a pas été pour le pouvoir ou pour les honneurs du monde. Comment cultiver nos désirs? Peu de gens se trouvant dans le genre de crise qui a motivé Aaron Ralston. Mais son expérience constitue une bonne leçon sur la manière de cultiver les désirs. Aaron Ralston faisait une randonnée dans un canyon isolé dans le sud de l'Utah lorsqu'un rocher de 400 kilos glissa soudain et lui emprisonna le bras droit. Pendant 5 jours, il resta seul à essayer de se dégager. Alors qu'il était prêt à abandonner et à accepter la mort, il eut la vision d'un garçon de 3 ans qui courait vers lui et qu'il ramassait de son bras gauche. Comprenant que c'était une vision de son futur fils et la promesse qu'il pouvait encore vivre, Ralston rassembla son courage et prit une mesure radicale pour sauver sa vie avant que ses forces ne l'abandonnent. Il brisa les 2 os de son bras droit, emprisonné, puis il utilisa le couteau de son outil multifonction pour sectionner ce bras. Il trouva ensuite la force de marcher 8 kilomètres pour trouver de l'aide. Quel exemple de pouvoir, d'un désir qui l'emporte sur tout le reste. Quand nous avons la vision de ce que nous pouvons devenir, notre désir et notre pouvoir d'agir augmentent énormément. La plupart d'entre nous n'auront jamais à affronter une crise aussi extrême, mais nous rencontrons tous des pièges potentiels qui nous empêcheront de progresser vers notre destinée éternelle. Si nos désirs justes sont suffisamment intenses, ils nous motiveront à trancher nos liens et à nous libérer des dépendances et des autres pressions et priorités pécheresses qui entravent notre progression éternelle. Nous ne devons pas oublier que les désirs justes ne peuvent pas être superficiels, impulsifs ou temporaires. Ils doivent venir du fond du cœur, être inébranlables et permanents. Ainsi motivés, nous nous efforcerons d'atteindre l'état décrit par Joseph Smith, le prophète, où nous aurons vaincu tous les maux de notre vie et aurons perdu tout désir pour le péché. C'est une décision très personnelle. Comme Elder Neil A. Maxwell l'a dit, quand on dit que des gens ont perdu le désir de pécher, c'est eux et eux seulement qui ont décidé délibérément de se débarrasser de ces mauvais désirs en étant disposés à délaisser tous leurs péchés afin de connaître Dieu. Par conséquent, ce que nous désirons avec insistance dans la durée est ce que nous finirons par devenir et ce que nous recevrons dans l'éternité. Fin de citation. S'il est important de perdre tout désir du péché, la vie éternelle demande plus encore. Pour atteindre notre destinée éternelle, nous devons désirer les qualités nécessaires pour devenir un être éternel et travailler pour les acquérir. Par exemple, les êtres éternels pardonnent à tous les gens qui leur ont fait du tort. Ils placent le bien-être des autres avant le leur. Et ils aiment tous les enfants de Dieu. Si cela semble trop difficile, et ce n'est sans doute facile pour aucun de nous, nous devons commencer par désirer ces qualités et demander à notre Père céleste aimant de nous aider à gérer nos sentiments. Le livre de Mormon nous enseigne que nous devons prier le Père de toute l'énergie de notre cœur afin d'être rempli de cet amour qu'il a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils Jésus-Christ. Je conclus avec un dernier exemple d'un désir qui doit être primordial pour tous les hommes et toutes les femmes, ceux qui sont actuellement mariés et ceux qui sont seuls. Tous doivent désirer obtenir un mariage pour l'éternité et œuvrer pour cela. Ceux qui ont déjà un mariage au temple doivent faire tout leur possible pour le conserver. Ceux qui sont seuls doivent désirer un mariage au temple et donner la priorité aux efforts pour l'obtenir. Les jeunes et les jeunes adultes seuls doivent résister au concept politiquement correct, mais éternellement faux, qui discrédite l'importance de se marier et d'avoir des enfants. Hommes seuls, réfléchissez au problème exposé dans cette lettre de supplique écrite par une sœur seule. Elle intercédait pour, je cite, « les filles justes de Dieu » qui recherche sincèrement un compagnon digne. Elle ajoutait, « Mais les hommes ont l'air de ne pas voir et de ne pas savoir s'ils ont ou pas la responsabilité de rechercher ces merveilleuses filles choisies de notre Père Céleste, de les courtiser et d'être disposés à contracter et à respecter des alliances sacrées dans la maison du Seigneur. » Elle conclut ainsi, « Il y a de nombreux hommes seuls dans l'Église qui sont heureux de sortir, de s'amuser, de passer du temps avec les filles, mais qui n'ont pas la moindre intention de s'engager vis-à-vis d'une femme. » Fin de citation. Je suis sûr qu'il y a des jeunes hommes qui cherchent ardemment à se marier, qui voudraient que j'ajoute qu'il y a des jeunes femmes dont le désir... Des jeunes femmes dont le désir de faire un mariage digne et d'avoir des enfants passe bien après celui de faire carrière et d'obtenir d'autres honneurs terrestres. Les hommes et les femmes ont les uns et les autres besoin de désirs justes qui les mèneront à la vie éternelle. N'oublions pas que les désirs dictent nos priorités, que les priorités façonnent nos choix et que les choix déterminent nos actes. De plus, ce sont nos actes et nos désirs qui nous façonnent, qui font de nous un véritable ami, un instructeur talentueux ou quelqu'un qui s'est qualifié pour la vie éternelle. Je témoigne de Jésus-Christ, dont l'amour, les enseignements et l'expiation rendent tout possible. Je prie pour que, par-dessus tout, nous désirions devenir comme lui, afin de pouvoir un jour retourner en sa présence et recevoir la plénitude de sa joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci, frère. Nous rappelons aux frères que la réunion générale de la prêtrise commencera au centre de conférence ce soir à 18h, heure de Salt Lake City. La diffusion nationale de l'émission du Cœur de Tabernacle aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure de Salt Lake City. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Nous remercions le chœur mixte de l'Université Brigham Young Idaho de la belle musique qu'il a interprétée cet après-midi et les personnes qui nous ont parlé pendant cette session de la conférence. M. Russell Ballard, du Collège des Douze Apôtres, sera le dernier orateur de cette session. Après le discours de Frère Ballard, le chœur chantera le cantique de clôture « Let Zion in her beauty rise ».
Brothers and sisters, I hope you,
mes frères et sœurs, j'espère que ceux d'entre vous qui sont de passage à Salt Lake City prendront le temps d'admirer les couleurs et les parfums des magnifiques fleurs printanières qui entourent le temple de Salt Lake City. Le printemps apporte un renouveau de lumière et de vie, nous rappelant, par le cycle des saisons, la vie, le sacrifice et la résurrection de notre Rédempteur, Jésus-Christ, car tout rend témoignage de lui. En contraste avec ce beau décor printanier et sa symbolique d'espérance, il y a un monde d'incertitude, de complexité et de confusion. Les exigences de la vie quotidienne peuvent nous épuiser, les études, le travail, l'éducation des enfants, l'administration et les appels de l'Église, les activités diverses, et même la douleur et le chagrin d'une maladie ou d'un drame imprévu. Comment pouvons-nous libérer de ce dédale inextricable, de difficultés et d'incertitudes, pour trouver la paix de l'esprit et le bonheur? Nous sommes souvent comme ce jeune marchand de Boston qui, en 1849, comme le raconte l'histoire, fut pris dans la ferveur de la ruée vers l'or en Californie. Il vendit tous ses biens pour faire fortune dans les rivières de Californie, qui, selon ce qu'on lui avait dit, étaient remplies de pépites d'or si grosses qu'on pouvait à peine les soulever. Pendant des jours interminables, le jeune homme plongea son tamis dans la rivière et le ressortit vide. Sa seule récompense était un tas de plus en plus gros de cailloux. Découragé et démuni, il était prêt à tout laisser tomber. Quand un jour, un vieux prospecteur expérimenté lui dit « C'est un fameux tas de pierres que tu as là, mon garçon. » Le jeune homme répondit « Il n'y a pas d'or ici. Je rentre chez moi. » Le vieux prospecteur s'approcha du tas de pierres et dit « Ah si, il y a de l'or. Il suffit de savoir où le trouver. » Il prit deux pierres dans ses mains, les frappa l'une contre l'autre. Une des pierres se fendit, découvrant plusieurs particules d'or brillantes au soleil. Remarquant un petit sac en cuir bombé, attaché à la taille du prospecteur, le jeune homme dit « Je cherche des pépites comme celles qui sont dans votre sac, pas simplement de petites particules. » Le vieux chercheur d'or tendit son sac au jeune homme qui regarda à l'intérieur, s'attendant à voir plusieurs grosses pépites. Il fut stupéfait de voir que le sac était rempli de milliers de particules d'or. Le vieux prospecteur dit « Mon garçon, il me semble que tu es si occupé à chercher des grosses pépites que tu oublies de remplir ton sac de ces précieuses particules d'or. L'accumulation patiente de ces petites particules m'a apporté une grande richesse. Cette histoire illustre la vérité spirituelle enseignée par Alma, son fils et l'amant. C'est par des petites choses et simples, des choses petites et simples, que de grandes choses sont réalisées. Et c'est par de très petits moyens que le Seigneur réalise le salut de nombreuses âmes. Frères et sœurs, l'Évangile de Jésus-Christ est simple. Quels que soient nos efforts pour les compliquer, nous devons nous efforcer de garder notre vie aussi simple, libre d'influences extérieures, concentrée sur les choses qui ont le plus d'importance. Quelles sont les choses simples et précieuses de l'Évangile qui apportent de la clarté et un but à notre vie? Que sont ces particules d'or de l'Évangile dont l'accumulation patiente tout au long de notre vie nous récompensera par le trésor suprême, le don précieux de la vie éternelle? Je crois qu'il y a un principe simple mais profond, sublime même, qui englobe la totalité de l'Évangile de Jésus-Christ. Si nous adoptons ce principe sans réserve et en faisons le centre de notre vie, il nous purifiera et nous sanctifiera de façon ou de sorte que nous pourrons vivre à nouveau en présence de Dieu. Le Sauveur a parlé de ce principe quand il a répondu aux pharisiens qui demandaient « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est que lorsque nous aimons Dieu et le Christ de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée que nous pouvons partager cet amour avec nos voisins par des actes de gentillesse et de service. La façon dont le Seigneur nous aimerait et nous servirait s'il était aujourd'hui parmi nous. Quand cet amour pur du Christ, la charité, nous enveloppe, nous pensons, nous ressentons et nous agissons davantage comme notre Père Céleste et Jésus penserait, ressentirait et agirait. Notre motivation et notre désir sincère sont identiques à ceux du Sauveur. Il a parlé de ce désir à ses apôtres la veille de sa crucifixion. Il a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour que le Sauveur décrit est un amour actif. Il ne se manifeste pas par de grandes actions héroïques, mais par des actes simples de gentillesse et de service. Il y a une infinité de façons de servir les autres et de les aimer, et une multitude de circonstances pour le faire. En voici quelques-unes. Tout d'abord, la charité commence au foyer. Le principe par excellence qui doit régir tout foyer est l'application de la règle d'or, la recommandation du Seigneur. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Pendant un instant, imaginez ce que vous ressentiriez si vous étiez en butte à des paroles ou à des actes désobligeants. Par notre exemple, enseignons aux membres de notre famille d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Un autre endroit où nous avons largement l'occasion de servir est l'Église. Nos paroisses et nos branches devraient être des lieux où la règle d'or guide toujours nos paroles et nos actions les uns envers les autres. En nous traitant les uns les autres gentiment, en prononçant des paroles de soutien et d'encouragement, et en étant sensibles aux besoins des autres, nous pouvons contribuer à créer une unité empreinte d'amour parmi les membres de la paroisse. Là où il y a de la charité, il n'y a pas de place pour les commérages ou les paroles désagréables. Dans certains cas, les membres de la paroisse, tant adultes que jeunes, peuvent s'unir dans un service constructif pour faire du bien aux membres malades ou âgés. Il y a tout juste 2 semaines, le président de l'interrégion du Nord-Ouest de l'Amérique du Sud, Frère Nash, a rapporté qu'en affectant les forts en esprit à ceux qui sont faibles, il sauve des centaines d'adultes et de jeunes non pratiquants. Par l'amour et le service, un par un, ils reviennent. Ces actes de gentillesse créent un lien fort et durable entre tous les participants, tant ceux qui aident que ceux qui sont aidés. Il y a tant de beaux souvenirs liés à ce genre de service. Quand je pense à mes nombreuses années d'administration de l'Église, certains de mes souvenirs les plus intenses sont les moments où je suis allé avec d'autres membres de la paroisse aider. Par exemple, je me souviens avoir travaillé quand j'étais évêque avec plusieurs membres de ma paroisse à nettoyer la fosse d'ensilage de la ferme d'entraide du Pieu. Ce n'était pas une tâche agréable. Dans notre équipe de travail, un frère moins pratiquant, qui n'était pas venu à l'église depuis de nombreuses années, avait été invité à se joindre à nous. À cause de l'amour et de la camaraderie qu'il a ressenti avec nous, tandis que nous travaillions et parlions dans cette fosse d'ensilage malodorante, il est revenu à l'église et a été scellé plus tard à sa femme et à ses enfants. Notre service commun était une bénédiction pour ses enfants, ses petits-enfants et maintenant ses arrière-petits-enfants. Beaucoup d'entre eux sont partis en mission, se sont mariés au temple, ont fondé une famille éternelle. Une grande œuvre accomplie par un acte simple, une petite particule d'or. Le troisième domaine dans lequel nous pouvons servir est notre collectivité. Par une pure expression d'amour et de sollicitude, nous pouvons tendre la main aux gens qui ont besoin de notre aide. Beaucoup d'entre vous ont mis un T-shirt main serviable et ont travaillé sans relâche pour soulager les souffrances et améliorer votre communauté. Récemment, les jeunes adultes seuls du Pieu de Sendai au Japon ont rendu un service inestimable en recherchant les membres à la suite du tremblement de terre et du raz-de-marée dévastateur. Il y a tant d'innombrables façons de servir. Par notre gentillesse et notre service sincère, nous pouvons devenir les amis des personnes que nous servons. De ces amitiés découle une meilleure compréhension de notre dévouement à l'Évangile et le désir d'en savoir plus sur l'Église. Mon cher ami Joseph Worthlin a parlé du pouvoir de ce principe quand il a dit « La gentillesse est l'essence de la grandeur. C'est la clé qui ouvre les portes et noue les amitiés. Elle adoucit les cœurs et forge les relations qui dureront toute la vie. » Une autre façon de servir les enfants de notre Père Céleste est le service missionnaire, non seulement en tant que missionnaire à plein temps, mais aussi comme amis et voisins. La croissance future de l'Église ne se produira pas simplement du fait que l'on frappe à la porte d'étrangers. Elle arrivera quand les membres, avec les missionnaires, remplis de l'amour de Dieu et du Christ, discerneront les besoins et y répondront dans un esprit de service charitable. Quand nous ferons cela, mes frères et sœurs, les gens qui ont le cœur honnête sentiront notre sincérité et notre amour. Beaucoup voudront savoir davantage sur nous. Alors, et alors seulement, l'Église s'accroîtra et remplira la terre. Cela ne peut pas être accompli par les missionnaires seuls, mais nécessite l'intérêt et le service de chaque membre. Dans tout notre service, nous devons être attentifs aux incitations du Saint-Esprit. Le murmure doux et léger nous fera savoir qui a besoin de notre aide et comment nous pouvons aider. Le président Kimball a dit, « Il est donc essentiel de nous servir mutuellement dans le royaume. Bien souvent, nos actes de service consistent en de simples encouragements ou en de l'aide dans des tâches terre à terre. Mais quelles glorieuses conséquences peuvent découler d'actions insignifiantes mais volontaires. Et le président Monson a recommandé « Les besoins des autres sont toujours là et chacun de nous peut faire quelque chose pour aider quelqu'un. À moins que nous nous perdions dans le service, notre vie ne sert pas grand-chose. » Frères et sœurs, je voudrais souligner à nouveau que l'attribut le plus important de notre Père Céleste et de son Fils bien-aimé, que nous devrions désirer et chercher à posséder en nous-mêmes est le don de la charité, l'amour pur du Christ. De ce don découle notre capacité d'aimer et de servir les autres, comme le Sauveur l'a fait. Le prophète Mormon nous a enseigné l'importance extrême de ce don et nous a dit comment nous pouvons le recevoir. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, priez le Père de toute l'énergie de votre cœur afin d'être rempli de cet amour qu'il a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils, Jésus-Christ, afin de devenir les fils de Dieu, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous soyons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est, afin que nous ayons cette espérance, afin que nous soyons purifiés comme il est pur. On réalise de grandes choses grâce à des choses petites et simples, comme les petites particules d'or qui se sont accumulées avec le temps en un grand trésor. Nos petits actes simples de gentillesse et de service s'accumuleront dans une vie remplie d'amour pour notre Père céleste, de dévouement pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, et dominés par un sentiment de paix et de joie chaque fois que nous allons les uns vers les autres. Pâques approche. Puissions-nous montrer notre amour et notre connaissance pour le sacrifice expiatoire du Sauveur par des actes simples et compatissants de service envers nos frères et sœurs, à l'Église et dans la collectivité. C'est là ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our Heavenly Father, we're grateful.
Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants de vivre à une époque où nous pouvons savoir que nous sommes tes enfants. Nous sommes bien reconnaissants que beaucoup soit attendu de nous. Nous sommes reconnaissants, Père, d'avoir été enseigné aujourd'hui et d'avoir ressenti l'Esprit. Nous désirons être davantage comme toi et ton Fils. Nous désirons être préparés à te rencontrer ainsi que ton Fils. Nous prions que nous puissions suivre le message qui nous a été donné à cette conférence. Nous sommes prions pour tous ceux qui souffrent. Père, nous te prions de les bénir, de les réconforter, de leur envoyer de la paix et de la compréhension. Nous prions pour des cœurs préparés et exprimons notre amour envers toi au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 181st annual...
Vous venez d'assister à une session de la 181e conférence générale d'avril de l'Église Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par un chœur mixte de l'Université Brigham Young d'Idaho. Cette émission était diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.